Bienvenue dans Museum and Chill, le podcast du Conseil international des musées. Aujourd'hui, avant d'accueillir notre invité, nous avons une annonce très spéciale à partager avec vous. Le Conseil international des musées est fier de lancer l'appel à projets pour le prestigieux prix ICOM, pour les pratiques de développement durable dans les musées. Ce prix est le premier organisé par notre réseau pour récompenser les initiatives innovantes et les pratiques muséales exemplaires en matière de développement durable dans les musées. Que vous soyez un grand musée ou une petite institution, si vous avez un projet qui mérite d'être reconnu sur la scène internationale pour son engagement en faveur du développement durable, c'est l'opportunité idéale pour vous. Alors n'hésitez plus et soumettez votre candidature dès maintenant. L'appel à projet est ouvert jusqu'au 30 septembre 2024. Pour plus d'informations sur les modalités de participation et les critères de sélection, rendez-vous sur notre site internet icom.museum. Et maintenant, place au nouvel épisode de Museum and Chill. Bienvenue dans Museum and Chill, un podcast du Conseil international des musées. Aujourd'hui, nous avons invité Héloïse Joly en tant que membre de l'association Musée. Elle est actuellement chargée de communication à l'écomusée de la Bintinée à Rennes et elle fait partie des 7 personnes fondatrices de l'association Musée qui sensibilise aux problématiques féministes et valorise les initiatives existantes dans la sphère muséale. Bonjour Madame Joly, merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour débuter, pourriez-vous nous vous présenter brièvement et pourriez-vous nous en dire plus sur les motivations qui ont conduit à la création de l'association Musée ?
Oui, alors je suis diplômée d'un master en gestion de projet à Sciences Po Rennes et j'ai réalisé ce master en alternance au Musée de Bretagne à Rennes où j'ai rencontré un certain nombre de personnes qui étaient à cette époque-là stagiaires, apprentis ou contractuels. Et à un moment donné, je cherchais à lire un ouvrage qui traiterait des enjeux féministes au sein des musées en France. Ça n'existait pas. Et donc, j'ai proposé à ces personnes que j'avais rencontrées et qui étaient devenues des amies de faire ensemble ce livre. Pas de l'écrire, mais d'aller chercher les personnes qui rédigeraient les articles dans cet ouvrage. Et puis, eh bien, ça, c'était au printemps 2021. Ils sont 6 à avoir répondu oui, et puis on s'est lancé. Et le livre est sorti un peu plus d'un an après, en juin-juillet 2022. Donc le guide pour un musée féministe, c'était le projet initial de l'association Musée. Notre envie, c'était de laisser la parole à des professionnels qui auraient déjà mis en place des projets, et puis aussi à des chercheuses ou des chercheurs qui auraient travaillé sur ces sujets-là pour avoir un petit peu aussi le côté analyse, réflexion, esprit critique.
D'accord, merci beaucoup. Au-delà en fait de cette publication, vous avez également ouvert un site internet, vous avez des projets qui sont en cours. Vous parlez notamment de dresser un panorama des différentes initiatives féministes existant aujourd'hui au sein des institutions muséales françaises. Comment est-ce que vous traitez ce panorama du point de vue des collections, du point de vue de la narration auprès des publics, du point de vue également peut-être du personnel dans les musées? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Oui. Alors le panorama, c'était vraiment un des objectifs du guide pour un musée féministe. Nous, notre conception, c'était qu'on ne pouvait pas uniquement traiter l'enjeu du point de vue des expositions ou de la médiation, par exemple. Il fallait vraiment une approche globale et aller chercher des exemples dans des musées français. À la fois, bah oui, effectivement, c'est important l'exposition, la médiation, mais aussi sur le côté conservation, acquisition, indexation, qui est super important aussi des collections. Indexation genrée, puis aussi comment on accueille les visiteurs et les visiteuses, dans quelles conditions, permet à tous et tous de pouvoir venir au musée, et puis aussi pour vraiment concevoir la démarche de manière globale, comment la question est aussi abordée du point de vue du personnel, sur toutes les questions que ça peut poser.
C'est intéressant de vous parler de l'indexation, concernant les collections, qu'est-ce que vous avez noté, notamment comme initiative intéressante concernant les collections, par exemple.
Je crois que dans le guide, il y a rapidement un exemple qui est présenté sur les musées de Rouen qui font ce travail de mise en place d'une indexation genrée de leurs collections. Et après, j'ai aussi travaillé sur un projet de diagnostic chiffré au sein des musées bretons. Donc c'était avec l'association HF Plus Bretagne. Mmh. Et là, on a pu avoir un chiffre puisque il n'existe pas ailleurs de manière globale pour les musées en France. de voir quels étaient le pourcentage de musées qui mettaient en place cette indexation genre et des collections, qui est chronophage mais essentielle pour après derrière pouvoir concevoir des expos, des outils de médiation, etc. Le chiffre est pas très élevé.
Et est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus en quoi consiste cette indexation genrée?
Ah oui, donc en fait, l'indexation genrée, les musées vont avoir une base, va répertorier toutes leurs œuvres, toutes leurs collections, ça peut aussi être des objets, hein, il n'y a pas que des musées d'art. Et en fait, l'indexation va permettre de pouvoir taper un mot-clé, par exemple féminisme, et voilà, de voir ressortir tous les objets ou toutes les œuvres qui sont reliées à cette notion. Donc c'est quand même un outil super puissant pour après concevoir des projets derrière. Mmh.
Donc on parle aussi de recherche et puis d'autres manières de faire ces recherches, qualifier les bases de données pour aussi promouvoir une nouvelle narration peut-être dans les musées qui proposent d'autres angles, sous l'angle du féminisme justement. Vous avez aussi peut-être des exemples vis-à-vis de la médiation, vis-à-vis de projets qui vont dans ce sens-là pour promouvoir un musée plus féministe et plus inclusif.
Oui, alors il y avait un exemple qu'on aimait beaucoup qui est dans le guide, qui était présenté par Estelle Brousse, que je retrouve le nom du musée qui est concerné, ce serait mieux. Elle est parlé de la manière dont plutôt les institutions des beaux-arts, on va avoir un certain nombre d'œuvres qui vont traiter de sujets de violences sexistes et sexuelles. On va avoir l'enlèvement des Sabines, etc. L'enlèvement, c'est un bon mot pour cacher quelque chose qui est concrètement un viol. Et donc, elle parle de comment les musées peuvent s'emparer de ça pour faire de la sensibilisation, notamment auprès des scolaires. C'est un truc, c'était vraiment un super projet.
Très bien, merci beaucoup. Et vous parliez également au début de cet entretien de la promotion de l'égalité des genres et de la diversité au sein des équipes muséales, donc vraiment au cœur du fonctionnement des musées. Est-ce que là aussi, vous avez éventuellement des exemples ou des éléments que vous voulez mettre en avant particulièrement?
C'est vrai que comme ça, j'ai pas d'exemples qui me viennent en tête, mais ça me permet de rebondir sur un projet sur lequel on est actuellement en train de travailler au sein de l'association, qui sera un pacte musée en partenariat avec HF Plus Bretagne. L'idée de ce document, c'est d'avoir un menu d'action vraiment très concrète sur comment au sein de sa structure, on fait en sorte qu'elle soit plus égalitaire, à la fois dans ce qu'on propose aux visiteurs et aux visiteuses, mais aussi vraiment en termes de fonctionnement et de gestion des ressources humaines. Et donc, on est en train de travailler dessus, donc on est en train de définir tous ces différents éléments, mais ça va de choses qui peuvent aller de soi, comme avoir par exemple un salarié formé sur accueillir et gérer les cas de violences sexistes et sexuelles. Mais aussi des choses sur lesquelles on ne pense pas tout de suite et qui, par exemple, moi, en tant que chargée de communication, peuvent me venir à l'esprit. C'est sur qui on montre, sur tous nos supports de communication, que ce soit nos sites internet ou nos réseaux sociaux. Pas que des hommes. Et si on montre des hommes et des femmes, que ce soit d'autres minorités de genre, que ce soit pas toujours dans les mêmes postures, pas toujours les hommes dans la position de transmission de savoir, par exemple.
Justement, je voulais vous demander de partager quelques détails sur les projets actuels de l'association Musée. Donc, il y a ce projet de PAC qui sera proposé au musée. C'est un outil qu'ils pourront utiliser de manière autonome ou comment ça fonctionnera exactement, sous quelle forme?
Alors, ce pacte, il existe déjà dans d'autres domaines, notamment celui des musiques actuelles. Donc, c'est porté par HF Plus Bretagne. Et l'idée, c'est que les structures culturelles puissent être signataires de ces pactes et qu'en fait, la première année, elles font le bilan. En fait, ce menu d'action, il y a un nombre de points en fonction du degré d'implication que ça représente. Donc, la première année, on regarde, on fait le bilan, combien de points on a. Et l'idée, c'est que si on est signataire, chaque année, on s'engage à augmenter ce nombre de points, à mettre en œuvre des actions et des projets. Donc, il y a quand même... c'est pas un outil libre, l'idée, c'est vraiment de s'engager sur la durée.
D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont actuellement portés par l'association? Comment est-ce que les musées, un professionnel de musée qui nous écoute, comment est-ce qu'il peut s'emparer de vos contenus pour promouvoir une représentation équilibrée des femmes dans les espaces muséaux?
Alors sur les projets en cours, donc il y a le pacte, il y a aussi un projet de pouvoir proposer à la vente notre livre sur notre site internet. En fait, là, pour l'instant, les seules personnes qui disposent du livre, globalement, elles ont pu l'acquérir à deux moments. C'était sur des moments de financement participatif. Donc, c'est quand même des moments bah, voilà, très limités. Donc, on aimerait que toute personne aujourd'hui puisse bah, prendre connaissance de cet ouvrage. On recense sur notre site d'ailleurs tous les lieux dans lesquels il est possible de l'emprunter. Le but de cet ouvrage, hein, c'est de lancer des pistes de réflexion pour des professionnels qui souhaitent mettre en place des projets dans leurs institutions. Ensuite, on travaille sur un autre document qui, là, est plutôt, mais les professionnels de musée pourront aussi s'en emparer. Hein. C'est plutôt là dans la posture de visiteur et de visiteuse, lorsqu'on assiste à une exposition, lorsqu'on visite, pardon, une exposition, avoir une grille qui permette d'évaluer, entre guillemets, même si le but, c'est pas de mettre une note, mais de voir comment, dans notre point de vue, on positionne cette exposition. Alors, cette ressource-là, un petit peu en pause, parce que c'est vrai que nous, on est une association bénévole. On travaille toutes à côté. On a fait le processus aussi cette année d'accueillir de nouvelles personnes. Donc, ça prend aussi beaucoup de temps. Donc, pour l'instant, on se concentre sur le pacte et sur bah, pouvoir permettre à toutes celles et ceux qui le veulent d'acheter le guide.
Et est-ce qu'il y a d'autres perspectives, des aspirations de l'association? Vous êtes principalement basé en Bretagne. Est-ce que l'idée, c'est vraiment de pouvoir rayonner au niveau national, voire au niveau international? Parce que nous, c'est vrai qu'on est sur une audience internationale à l'ICOM.
Alors, c'était vrai au départ qu'on était principalement basé en Bretagne. Plus aujourd'hui, il me semble qu'on doit être 4 ou 5 sur une trentaine. Il y a vraiment des gens partout en France maintenant, ce qui nous permet aussi de pouvoir bah, intervenir dans des musées, pas que spécifiquement en Bretagne ou à Paris. Et nous, l'idée, c'est plutôt de se concentrer vraiment sur le national, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire. Ça bouge vraiment beaucoup dans d'autres pays. On voit plein d'exemples. L'objectif de l'asso, oui, c'est vraiment de se concentrer sur le national.
Est-ce que vous avez en tête des exemples dans d'autres pays qui sont particulièrement inspirants ou qui vous ont inspiré ou dont vous auriez discuté au sein de l'association?
Peut-être si je peux me permettre de parler d'un petit extrait de vers ce vers quoi nous, on aimerait tendre aujourd'hui.
Oui.
Dans l'association. Idéalement, nous, en tant que militantes, on aimerait pouvoir dépasser ces labels spécial femmes ou quand on va dans beaucoup d'expos au féminin. Bah, parce que déjà, une expo qui va concerner principalement des hommes, que ce soit des artistes ou que ce soit une expo avec un angle historique ou sociaux, etc., dans la com, dans la médiation, dans la presse, on va jamais parler d'expo d'hommes. Donc pourquoi pointer spécifiquement deux femmes et quand c'est une artiste, bah voilà, c'est pas parce que c'est une femme que son travail artistique est important. Et nous, ça nous gêne que généralement le message ce soit oh super, on expose une femme, mais en quoi son travail artistique est super intéressant? Enfin, c'est pour ça qu'on va voir une expo, pas juste parce que c'est une femme.
C'est une véritable question qui rejoint aussi la question de l'invisibilisation du travail artistique des femmes pendant très très longtemps. Et donc il y a aussi tout un travail de documentation et d'archives qui est en cours un peu plus généralement sur cette question. Je ne sais pas si ça c'est aussi éventuellement un des axes d'action de l'association ou en tout cas si vous rejoignez aussi ce mouvement-là un peu de documentation en fait de toutes ces femmes artistes dont on dit oubliées ou en tout cas qui ont été plutôt mises de côté dans l'histoire de l'art en général.
Alors, les missions de l'asso, ça va pas être de faire des recherches historiques, de documenter, d'archiver. C'est pas nos compétences. D'autres associations le font. Enfin, il y a un musée des féminismes qui est en train de se monter à Angers. Il y a eu un gros travail par les archives du féminisme. Elles sont plus compétentes que nous, donc laissons faire les personnes compétentes. Ça nous empêche pas, nous, bah, de faire un travail plutôt de sensibilisation et de promotion pour que des projets qui aillent dans ce sens soit menée. Et puis, c'est vrai que sur ce que vous disiez sur l'invisibilisation, il y a un super texte de Ren Pratt, Exploser le plafond, qui est vraiment super. Et il y a un passage qui est vraiment super pertinent, qui me permet de vous le lire. Il ne s'agit peut-être plus aujourd'hui d'écrire l'histoire des femmes, mais de réécrire l'histoire, donc avec un grand H, en y intégrant la part effacée, celle que l'on doit à l'action, à la pensée, à l'œuvre de femmes. Il s'agit que les femmes ordinaires retrouvent leur place dans l'histoire des peuples, que les femmes remarquables soient reconnues dans leurs œuvres, que leurs exemples nous délivrent de toutes interdictions et empêchements et nous autorisent, donc toutes les questions de représentation que j'évoquais tout à l'heure. Et elle dit que c'est ce à quoi tendent les initiatives matrimoniales aujourd'hui.
Merci beaucoup. Justement, j'allais vous demander un texte ou un livre de référence. Donc, vous avez cité Reine Pratt. Merci beaucoup pour cette référence. Est-ce que vous avez envie de partager avec nous, peut-être à titre plus personnel, je sais pas, une initiative muséale, une exposition ou peut-être une chanson qui vous aurait marqué
J'essaie de penser à quelque chose qui ne soit pas trop classique. C'est vrai que là, la première expo qui me vient en tête, c'est pas très original, c'est Parisienne Citoyenne, donc au musée Carnavalet. Ça m'a vraiment émue de voir toutes ces artistes qui avaient été des jalons dans la construction de mes références culturelles qui ne soient plus que celles considérées de manière générale comme classiques. On nous enseigne en cours de littérature, en cours d'histoire de l'art, etc. Et j'avais eu la chance, lors de la visite de cette exposition, de voir un très beau moment où il y avait un audiovisuel, je ne me rappelle plus exactement, mais qui proposait des extraits de chants de manifs. Et il y a une visiteuse un peu âgée, donc je me suis dit peut-être qu'elle a connu ces manifestations-là dans les années 70, qui s'est mise à chanter dans la salle d'expo. Et d'autres personnes ont répondu, et c'était vraiment très fort comme moment.
Merci beaucoup pour cette référence et pour ce vécu. Merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. C'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Évidemment, nous mettrons en lien le site de l'association pour les personnes qui veulent en savoir plus. Et évidemment, ce podcast sera diffusé sur toutes les plateformes d'écoute. À très bientôt.
Merci beaucoup. Voilà. Au revoir.
N'oubliez pas d'aller sur notre site icom.museum pour écouter d'autres épisodes et découvrir d'autres contenus et initiatives dans le monde muséal.